Frères et sœurs, les amis, j'aimerais qu'en ce cinquième dimanche de Pâques, nous puissions méditer sur la première lecture, celle du livre des Actes des Apôtres, que nous lisons déjà depuis plusieurs dimanches, ces dimanches après Pâques. Pourquoi nous lisons le livre des Actes des Apôtres? Parce que il raconte, écrit par Saint Luc, les premiers temps de l'Église. La constitution, si on peut dire, de l'Église apostolique qui se met en place dans et au milieu des premières communautés chrétiennes. Donc, nous sommes, nous, au lendemain de Pâques. Accueillons la fraîcheur de ces textes et rentrons, si vous le voulez bien, dans cette brève méditation. Au moment où nous écoutons dans le chapitre 9, versets 26 à 31, qui nous est donné de méditer en ce cinquième dimanche de Pâques, nous entrons dans une nouvelle phase du livre des Actes des Apôtres. En effet, jusqu'ici, Saint Luc nous racontait les tout débuts de l'Église naissante après la Pentecôte. Pierre et Jean étaient au centre du récit des Actes des Apôtres. Puis il y a eu le martyre d'Étienne, que nous avons entendu du reste à un évangile durant ces dernières semaines, et l'entrée en scène, si je puis m'exprimer ainsi, d'un nouveau personnage, de ce jeune homme Saul de Tarse, dont l'Écriture nous rappelle que pendant qu'on lapidait Étienne, c'est lui, Saul de Tarse, qui gardait les vêtements de tout le monde, nous rapporte le texte. Et donc, nous sommes au moment où ce même Saul de Tarse revient à Jérusalem, quelque temps plus tard, converti et baptisé. Alors évidemment, il a une réputation de persécuteur qui le précède, même s'il n'a pas participé à la lapidation d'Étienne, il l'a approuvé, ce qui est déjà pas mal, et les gens de l'époque n'ont pas oublié cet événement. Alors, l'activité de Paul débordait à Jérusalem, et il avait même poussé le zèle jusqu'à demander au grand prêtre un ordre de mission pour aller jusqu'à Damas, débusquer et arrêter tous les chrétiens. Ça, nous le savons. Donc, cette réputation de persécuteur était très ancrée. Alors, évidemment, quand on le voit revenir, eh bien, les gens sont pas contents, ils sont même suspicieux, alors qu'ils cherchent à s'introduire parmi les chrétiens. On est plus que suspicieux, on est extrêmement méfiant. Il cherchait, nous dit le texte, à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il ne veut pas s'introduire au cœur de la communauté pour la dynamité de l'intérieur? Alors, curieusement, c'est un personnage qui va rentrer en scène, un autre personnage dont nous avons presque oublié le nom, Barnabé, qui a joué le rôle de « garantie », entre guillemets, de la personnalité de Saul et de sa bonne volonté. Ce Barnabé, en fait, s'appelait Joseph. Il est juif, lévite, originaire de Chypre. Il a une très bonne réputation, à un point tel que on lui a donné ce surnom de Barnabé, qui veut dire « homme du réconfort ». Ce qui est déjà un très beau compliment. Et on sait aussi qu'il fait partie de ceux qui ont mis tout en commun et qui ont vendu leur champ pour partager l'argent et la mettre à la disposition de la communauté. Donc il est certainement un homme très accueillant, cherchant à mettre les uns et les autres en relation, si on peut parler de cette manière-là. Alors il va faire confiance d'entrée de jeu à Saul. Et le livre des Actes ne dit pas que Barnabé était témoin de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, quand celui-ci a été converti, mais Barnabé prit Saul avec lui et va le présenter tout simplement aux apôtres en racontant ce qui s'est passé sur la route de Damas. Alors, la suite du texte, Saint-Luc va répéter que Paul prêchait avec assurance au nom de Jésus. Donc, Paul va mettre toute sa force, toute sa foi au service de la foi chrétienne, en mettant, j'allais dire, la même énergie et la même passion qu'il a mis pour persécuter les chrétiens et pour les détruire, il la met au service du Christ. Et pas une seconde, Paul a l'impression de renier sa foi, loin de là, ou la foi de ses pères en devenant chrétien. J'allais dire c'est le contraire, hein. C'est parce que il est juif qui devient chrétien. Alors les juifs, nous avons, sont ceux qui ont attendu et qui attendent depuis tant de siècles ce Messie, et bien voici qu'elle est comblée par la venue du Christ Jésus, et c'est ce qu'a compris tout simplement Saint Paul. Alors, il va mettre toute son énergie au service de la prédication, mais aussi à la fois ce qui lui collait à la peau, c'est-à-dire un persécuteur, et de voir ce persécuteur des chrétiens devenir vraiment le défenseur des chrétiens, va attirer évidemment non seulement la suspicion, mais les épreuves. L'épreuve pour se faire accepter par les chrétiens de Jérusalem, Paul va donc affronter ses frères de race, les juifs. Parce que pour les juifs, il est un renégat, tout simplement. On pourrait dire la même chose d'un musulman qui se convertit au christianisme et devient aussi un renégat pour nous aujourd'hui. Alors on voit se profiler ici, bien évidemment, tout ce que sera la persécution et les persécutions que Paul va devoir affronter durant toute sa vie de mission. Il parlait, je cite le texte, aux juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Et donc les apôtres vont le faire partir par le premier bateau pour Tarse, sa ville natale au sud de la Turquie. Et Barnabé ira le rechercher par la suite. Alors, ces épreuves, et c'est là peut-être le point le plus important de cette méditation, à mon avis, n'entravent pas la croissance de l'Église. L'Église était en paix, nous venons de le lire dans le texte, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle s'avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Alors nous retrouvons ici le mot crainte, et je me permets de rappeler que c'est un mot très familier dans l'Ancien Testament, et il est bien clair que, au sens biblique, la crainte, ce n'est pas de l'ordre de la peur, elle n'empêche pas du tout d'avancer, la preuve, le livre des Actes des Apôtres nous en montre le contraire. Mais Luc précise que dans la crainte du Seigneur, l'Église se construisait et elle avançait. Ce que vont tout simplement nous dire et nous redire, que ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est tout simplement une attitude de vérité, l'attitude intérieure et extérieure de vérité de celui qui se reconnaît tout petit, mais aussi aimé et protégé de Dieu. Et c'est cette crainte, qu'on le veuille ou non, qui est à la source de cette assurance et de cette force, oserais-je le dire, des premiers chrétiens qui étonnaient tous leurs contemporains. Alors je pense que, en se préparant dans quelques jours, dans quelques petites semaines à la fête de la Pentecôte, où nous allons demander à l'Esprit Saint de revivifier en chacun de nos cœurs les sept dons de l'Esprit, et entre autres ce don de la crainte de Dieu, inscrivons-le tout simplement dans notre cœur en disant que la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur, mais c'est au contraire nourrir une attitude virile, une attitude forte, comme celle des tout premiers chrétiens, pour servir de témoignage. Et ainsi, la crainte, loin de nous fermer sur nous-mêmes, devient l'énergie nécessaire pour témoigner de l'amour du Seigneur. Alors, témoignons entre nous, alors que nous nous préparons à cette fête de la Pentecôte, témoignons entre nous de cette force de l'Esprit-Saint, une force intérieure, cette crainte de Dieu qui nourrissait avec tant d'ardeur et tant de force la première communauté chrétienne que nous découvrons au fil de la lecture de ce très beau livre des Actes des Apôtres. Amen.